Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager. De transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tout sur elle. Anna, avant qu'on commence l'épisode, tu as un petit message.
Oui, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé au concours solidaire au profit de la Maison des Femmes, qui est une association que j'adore, qui vient en soutien aux femmes victimes de violences et qui fait tout plein de choses. Vous pouvez aller voir tout ce qu'ils font sur leur site internet. Et c'est un concours solidaire qui est organisé par Charlie Crane, qui est un éditeur de mobilier design pour bébés et pour enfants, et qui avait organisé tout ça, donc on les remercie pour ça, et puis merci à eux de soutenir aussi l'épisode.
Aujourd'hui, on a un format un peu spécial qu'on ne vous a pas encore présenté. Parfois, dans Tout sur elle, quand Anna n'est pas spécialiste de la question, on se tourne vers quelqu'un qui l'est. Et aujourd'hui, on reçoit Hélène Malmanche, elle est sage-femme et anthropologue, spécialiste des questions de bioéthique, de procréation médicalement assistée et de droit de la famille. Hélène, elle est aussi autrice d'un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Ma Bible de l'accouchement sans douleur ». La préface est signée de quelqu'un qu'on connaît plutôt bien dans Tout sur elle, puisque la préface est d'Anna Roy. Merci beaucoup, beaucoup Hélène d'être avec nous. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de fertilité et s'en suivra un épisode sur l'infertilité. Alors évidemment, pour commencer, je vais te demander de me définir la fertilité.
Alors, il y a une définition médicale de la fertilité qui est la capacité pour les hommes et pour les femmes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à ce qui concerne les femmes, la capacité à avoir un enfant. Et donc, quand on est une femme, il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. La capacité ovocytaire et la capacité utérine. Et ça, il y aura beaucoup de choses à en dire sur cette dualité de la procréation et de la fertilité féminine qui est très différente de la fertilité masculine. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à penser. Aussi parce que notre référentiel, c'est toujours le masculin. Très souvent, c'est le masculin.
Pourquoi c'est très différent ?
Parce que on a en général l'idée simplement que la fertilité, c'est être capable de tomber enceinte. Sauf qu'en fait, être capable de tomber enceinte, c'est une machine très complexe qui fait intervenir tout un tas de niveaux. Et qui sont à la fois donc des facteurs organiques, mais aussi tout un tas de... Il y a un contexte, en fait, à cette capacité à procréer.
C'est-à-dire que corporelle. La fertilité féminine est plus complexe, comme on pourrait dire, plus difficile à appréhender que la fertilité masculine, où on a, effectivement, l'homme fait un spermogramme, donc il va faire un recueil de sperme, et on l'analyse, c'est ça que tu veux dire ? C'est plus difficile à appréhender ?
C'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que... On ne peut jamais s'extraire de nos représentations. Et donc, on a cette idée que bon, les hommes sont toujours fertiles, grosso modo, à partir de la puberté jusqu'à la mort. Et comme on a cette prénotion, en fait, les sciences se sont assez peu intéressées à la question de la fertilité masculine. Donc, on a cette prénotion de la fertilité masculine atemporelle, complètement affranchie des limites du temps. On commence à revenir là-dessus et on commence à voir qu'en fait, il y a une altération de la qualité du sperme dans le temps. On commence à comprendre qu'il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques qui ne sont pas liées uniquement à la qualité des ovocytes qui déclinent avec l'âge. Donc, cette décroissance ou en tout cas cette altération de la qualité de la fertilité, elle est partagée chez les hommes et chez les femmes, mais sous des aspects très différents. Et de l'autre côté, les femmes ont toujours été, historiquement en tout cas, dans nos pays, on va dire... européano-américains, les corps féminins ont été des objets pour la science, des objets pour la médecine, pour la gynécologie. Et donc, on voit très souvent les corps féminins comme des corps problématiques, ou en tout cas des corps à améliorer, à réparer, et ça depuis des siècles et des siècles, en fait, en réalité. Donc cette complexité, on peut jamais la qualifier uniquement, comme pourraient dire des biologistes devant la reproduction de, je sais pas, des anopheles ou des grenouilles. Les humains, c'est toujours très complexe.
Mais on sait ce qui fait varier la fertilité des femmes. Alors, parlons de la fertilité des femmes. Qu'est-ce qui fait varier? Parce qu'on a tous l'idée de l'âge. Est-ce que cette horloge biologique existe ou est-ce qu'elle est un mythe?
Oui, bien
est-ce
sûr.
Est-ce que l'environnement, est-ce que l'eau qu'on boit, enfin, quoi? Qu'est-ce qui va faire varier ça?
Si on se base sur nos connaissances actuelles, c'est une certitude qu'on commence à être fertile à partir de la puberté, avec un petit délai, puisque le temps que, pour parler simplement, il faut une sorte de stabilisation hormonale pour que tout puisse fonctionner. Mais grosso modo, à partir du moment où on a ses premières règles, jusqu'à une dizaine d'années avant la ménopause, ça c'est beaucoup moins connu, mais on arrête d'être fertile à peu près 10 ans avant la ménopause. C'est-à-dire que la fabrication des hormones et l'usine à hormones que devient le corps des femmes après la puberté, il a toute une phase en fait de déclin relativement lent, parce que les hormones sexuelles ne sont pas là que pour la reproduction en réalité.
Et mais alors, tant tu dis 10 ans avant,
à peu
l'âge
près.
Moyen c'est 51 ans de la ménopause.
Ouais.
Donc tu sous-entends qu'à partir de 41 ans...
Ça devient compliqué pour beaucoup de femmes, oui, voire impossible.
Est-ce qu'on a des études scientifiques qui nous disent, des études assez puissantes sur le travail, sur parce que je vois beaucoup de femmes qui travaillent énormément et qui, je trouve, ont beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on sait que les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on sait que, j'en sais rien, moi, la précarité, je sais pas.
Bah, c'est des facteurs tellement difficiles à isoler, en fait, qu'on n'en a pas... On n'a pas la capacité de faire des études spécifiquement sur ces points. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une étroite corrélation entre la fabrication, en tout cas le fonctionnement hormonal du corps, et la fatigue, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on voit, pour le coup, très nettement chez les femmes qui allaitent. Ça, tu connais ça très bien. Les femmes qui allaitent et qui ont des diminutions de production lactée, et un des premiers conseils qu'on leur donne, c'est « reposez-vous ». Parce que l'hypophyse joue un très grand rôle et donc voilà. Donc sans doute que le surmenage, la fatigue ne contribue pas à améliorer ou en tout cas à instaurer un climat hormonal général qui soit optimum. Mais ça, c'est presque déductif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études là-dessus. Après, les perturbateurs endocriniens, ça fait partie des choses qu'on explore depuis une dizaine d'années. Il y a une toxicité indéniable de tout un tas de produits, mais c'est assez controversé tout ça, hein, c'est assez compliqué. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y aurait une altération de la qualité du sperme, et donc on serait passé de 20% à peu près de forme normale de spermatozoïdes dans un éjaculat classique à 4% aujourd'hui. Mais pourtant, on ne voit pas de diminution de la capacité à féconder. Donc, d'avoir une bonne ou une mauvaise qualité, c'est plus facile à analyser sur le spermogramme, parce que pour l'instant, on ne sait pas analyser la qualité ovocytaire, sauf si on le met à l'épreuve de la fécondation. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que tous ces facteurs environnementaux, les facteurs psychologiques, les facteurs d'hygiène de vie, c'est très difficile de démêler tout ça. Et en fait, c'est du tâtonnement. Et c'est-à-dire que si on est dans un parcours de procréation, ou en tout cas, on est dans un souhait d'avoir un enfant, de tomber enceinte quand on est une femme, et que la grossesse tarde, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va tenter de mettre en place. Et en fait, ce tâtonnement, il est quasiment inévitable, premièrement. Et il n'y a pas de recette magique. Et en plus, c'est aussi toujours relié à la question du masculin, que ce soit sous la forme classique d'un couple ou que ce soit sous la forme d'une procréation médicalement assistée. Dans tous les cas, il y a cette relation étroite entre gamète mâle, gamète femelle, et ainsi de suite. Donc... Et tout le reste. Donc c'est compliqué, c'est très complexe.
Et justement, Hélène, tu dis que c'est compliqué, tu dis qu'on tâtonne et qu'on ne sait pas. Et moi, ce que j'entends là, c'est qu'on, en termes de société, en termes de pays, ou peut-être même en termes mondial, on ne s'intéresse pas beaucoup, on se donne pas les moyens de s'intéresser plus à la question de la fertilité, alors que c'est juste la reproduction de notre espèce.
Mm-hmm.
C'est parce qu'il y a une grande part qui est une question féminine. Enfin, comment ça se fait qu'on n'ait pas plus investi cette question? Ou alors c'est trop complexe pour qu'on l'investisse plus?
Alors je crois que je suis à une très mauvaise place pour dire qu'on s'y intéresse pas, parce qu'évidemment...
Toi tu es passionnée de cette question.
Voilà, exactement. Et je pense que c'est très juste ce que tu soulignes, c'est que c'est une question qu'on a historiquement, traditionnellement, toujours envoyée au féminin. Jusqu'à une période récente, tomber enceinte n'était pas vraiment le problème. Le problème c'était plutôt de se prémunir des grossesses. Et là, on arrive à une période de notre histoire où les femmes ont des enfants plus tard, donc à une période où la fertilité est moins bonne. En tout cas, il faut un temps plus long avant de tomber enceinte. D'où le développement de la procréation médicalement assistée, mais qui n'est pas une panacée. Les taux de réussite de la PMA ne sont pas très élevés. Ce n'est pas 80% de grossesse à l'issue d'une PMA, pas du tout. C'est plutôt 4 fois moins que ça. Donc c'est une aide, certes, et des gens peuvent devenir parents grâce à la PMA, mais ce n'est pas tout le monde, loin de là. Et donc pourquoi on ne s'y intéresserait pas ou pourquoi on n'en parlerait pas? Aussi parce que ça touche à l'intime. Mettre dans le débat public des questions de l'intime et en plus de l'intime féminin, oh là là, c'est tellement récent.
Et à défaut de les mettre dans le débat public, en tout cas de les faire une priorité scientifique, est-ce que tu sens un engouement scientifique autour de cette question ces dernières années ?
Depuis les années 80, en fait. Depuis les années 80, il y a quand même un intérêt. Et il y a aussi un intérêt médical. Il y a aussi des enjeux, à la fois médicaux, pharmaceutiques. Il y a différentes sociétés savantes qui se sont montées à une échelle internationale, qui sont extrêmement actives. Je pense notamment à la société européenne, l'ECHRE, la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie. Et qui est extrêmement active et qui est une source de production de connaissances et en tout cas de recueil et de mise en commun des connaissances produites à l'échelle européenne, du partage d'expériences pour essayer de faire avancer nos connaissances de cette fertilité, infertilité féminine et masculine.
Moi, je sais que je faisais des crises d'angoisse, même avant l'âge de 30 ans, largement, de ma potentielle ou de ma possibilité d'être fertile ou pas. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pourcentages de chances qu'on a d'être fertile? Est-ce que mon angoisse était-elle justifiée et soutenue, enfin, avait forme de réalité, ou était-ce complètement absurde de penser de la sorte avant 30 ans?
Ce qui est intéressant dans cette angoisse-là, c'est que souvent, il y a une double angoisse. C'est qu'on a peur de tomber enceinte.
Oui.
Alors qu'on ne veut pas être enceinte. Donc, on a peur d'être fertile, mais pas au bon moment. Et en même temps, on a aussi peur de ne pas être enceinte ou de ne pas pouvoir l'être. Et donc, du coup, il y a cette ambivalence, il y a cette ambiguïté. La statistique qu'on peut donner, c'est qu'il y a à peu près 25% de chances par cycle de tomber enceinte quand on est au maximum de sa fertilité. Donc, quand on est quelque part entre 20 et 25 ans, 20 et 28 ans, on a une chance sur 4 de tomber enceinte. Et puis, ce ratio, il diminue d'abord progressivement. Et puis à partir de 35 ans, là, il y a une cassure nette de la courbe. Alors évidemment, il y a des situations individuelles qui font que, ben non, il y a des femmes qui restent très fertiles passé 35 ans et d'autres qui, au contraire, dès 30, 32, vont commencer à avoir du mal à procréer.
Est-ce qu'on est plus fertile si on a déjà eu des enfants? Est-ce que le fait d'avoir déjà eu des enfants prolonge l'état de fertilité?
Non, parce que en fait, on naît avec un stock d'ovocytes qui nous est donné à la naissance au moment de la formation en fait, de l'embryon. Qui ensuite deviendra la jeune femme un jour. Et c'est ça qui va déterminer le nombre de cycles où des ovocytes pourront être produits.
Quel que soit notre âge, comment on fait pour savoir si on est fertile? Là, ça y est, je crois qu'on est toutes les deux genre, bon, okay, on peut pas trop savoir. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on fait?
La première chose, c'est observer ces cycles. Quand on a des cycles réguliers, c'est déjà généralement un bon signe. Quand on n'est pas sous pilule, bien sûr. Quand je dis cycle régulier, c'est sans aucun apport hormonal extérieur. Sous pilule, comme c'est un cycle artificiel, évidemment que ça va être régulier.
Quand tu dis régulier, parce que les gens ne savent pas forcément.
Ah oui, tout à fait.
C'est régulier, quoi? C'est vraiment tous les 28 jours pile?
Non, ce n'est pas forcément 28 jours. Mais quand c'est l'anarchie, c'est-à-dire quand on a des cycles de 25 jours et des cycles de 40 jours, ça, c'est des cycles irréguliers. Par contre, quand il y a une variation de plus ou moins 2-3 jours, ça, ce sont des cycles réguliers. Ça peut être des cycles courts, de 23 ou 24 jours. Ça peut être des cycles longs, de 35 jours, mais l'important, c'est la régularité.
Sauf que là, quand même, cette année, les cycles menstruels féminins, ils ont été complètement anarchisés par le Covid et le vaccin.
Oui, par la situation sociale dans laquelle on se trouve. Et c'est un stress général.
Et ça peut nuire à la fertilité.
Mais comme tous les stress, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que les hormones sexuelles ne sont pas déconnectées du reste du corps et que la production hormonale, elle est aussi intrinsèquement liée à nos émotions. Les hormones du stress sont très proches chimiquement des hormones sexuelles. Donc un taux de stress élevé n'est jamais bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut être amené, quand on est dans des prises en charge en procréation médicalement assistée, à repousser des stimulations parce qu'on sait qu'il y a eu un stress, soit de travail, une échéance. Et que donc, avec un taux de cortisol haut, on va peut-être avoir de moins bons résultats. Alors après, il y a aussi une part de croyance, bien sûr, dans tout ça, de croyance médicale.
Alors, cycle régulier, d'accord. Et alors après, est-ce qu'il y a d'autres...
Après, de ce que l'on peut regarder soi-même, il y a la possibilité de faire toujours de prendre sa température et de voir si on a une variation de la courbe de température. Donc théoriquement, on doit avoir une augmentation progressive de la température à partir du premier jour des règles jusqu'à la veille de l'ovulation, on a une chute de la courbe de température. C'est quand on voit ce décrochage de la courbe de température, on peut se dire « Ah ok, l'ovulation a lieu à ce moment-là ». Mais ça, c'est relativement contraignant. Sinon, le plus simple, ce qui se fait beaucoup plus déjà dans certains pays du Nord, en particulier le Danemark, et qui va sans doute commencer aussi, et ce qui serait souhaitable, et certains médecins qui ont une certaine notoriété militent déjà pour cela, c'était le cas du professeur Friedman, pour qu'il y ait des bilans de fertilité qui soient proposés aux femmes en préventif. C'est-à-dire que vous allez chez votre sage-femme, chez votre gynécologue, et vous demandez à avoir la prescription d'un bilan de fertilité qui consiste à faire une échographie intravaginale qui permet de compter le nombre de follicules qu'on a dans les ovaires. Donc on compte le nombre d'ovocytes. Combiné à cela, on fait une prise de sang pour regarder le fonctionnement hormonal, plutôt en début de cycle. Et avec ces deux éléments-là, donc une prise de sang, une échographie, on arrive à avoir une bonne idée.
Mais c'est aussi simple que ça?
Alors, c'est aussi simple que ça, oui et non, puisque ça reste juste des examens médicaux.
Oui, mais c'est quand même, ça donne une bonne indication, j'imagine.
C'est un facteur rassurant. C'est pas une garantie, mais c'est un facteur très rassurant. En revanche...
Donc ça, par exemple, je dis n'importe quoi, Nina ou moi, on peut décider demain d'aller te voir.
Ouais.
Et tu nous fais ça.
Ouais.
Tu nous prescris ça. Ok.
Ouais, tout à fait.
Donc sage-femme ou gynéco?
Oui. Après...
Et on demande un test de fertilité, c'est ça?
Un bilan de fertilité.
Un bilan de fertilité, ok.
Quand on est en dehors d'un projet immédiat, parce que sinon il faudra rajouter la vérification de la perméabilité des trompes utérines, qui là est encore un autre examen, mais qui est un peu plus invasif, puisqu'on doit injecter un produit qui passe dans les trompes, et c'est un examen radiologique. Et ça, on le fait vraiment à partir du moment où il y a un constat d'infertilité dans un couple hétérosexuel qui essaye de procréer par la sexualité, soit quand ce sont des femmes qui s'engagent dans des parcours de BMA et qu'il va y avoir des inséminations.
Est-ce qu'un test, un bilan de fertilité comme ça est pris en charge par la sécurité sociale?
Oui.
Ou c'est... D'accord. Parce que j'ai vu une boîte privée, me semble-t-il, qui proposait ça pour une certaine somme d'argent qui n'était quand même pas donnée. Donc en fait, c'est un peu absurde d'y aller, puisque si on peut bénéficier d'une prise en charge, quel est l'intérêt alors de ce genre de boîte?
C'est parce qu'il y a une demande. Donc étant donné que ce sont des laboratoires de biologie, vous pouvez toujours aller vous demander, vous pouvez payer vous-même des examens biologiques.
Mais ce sont les mêmes.
Mais sauf qu'il n'y a pas le conseil médical qui va avec.
D'accord.
Parce que c'est pas un bilan prescrit par
D'accord.
un professionnel de santé. Et par ailleurs, l'échographie est quand même un élément extrêmement important de ce bilan. Et donc aller juste faire une prise de sang, ce qui était un peu tendance et ce qui est en fait ce qui se révèle être quasiment un non-sens. Il y a eu à un moment donné le développement, l'explosion du dosage de l'AMH, l'hormone antimullérienne. C'était censé être l'hormone qui reflétait exactement notre réserve ovarienne. Or, c'est un test qui est en fait dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont une AMH très basse mais qui se maintient dans le temps et ça ne leur pose aucun problème pour procréer. Et d'autres qui ont une AMH élevée et qui pour autant n'arriveront pas à avoir des enfants. Donc en fait, ce qu'on a pensé être vraiment le marqueur de la réserve ovarienne, et c'est normal, on cherche ça. On cherche à savoir comment on fait pour savoir. Mais en fait, il n'y a jamais de réponse simple. Mais par contre, il y a des prises en charge, il y a des parcours, il y a des histoires, il y a des découvertes individuelles. Et c'est comme ça que ça marche en fait.
Et à partir de quel âge il faut s'en préoccuper? Genre le bilan de fertilité, il faut le faire à quel âge à peu près?
Ça, là aussi, c'est une question compliquée. Quelles sont les limites? Quelles sont les bornes temporelles qu'on va mettre à ça? En fait, je pense qu'une limite d'âge ne serait pas forcément pertinente dans ce cas-là. Ce serait
D'accord.
plutôt de dire les professionnels de santé doivent avoir dans leur boîte à outils la prescription d'un bilan de fertilité pour les femmes qui se posent des questions. Pour celles qui se les posent précocement, et ça peut être entre 20 et 25 ans, et moi j'ai dans mes connaissances des jeunes femmes qui ont moins de 25 ans et qui veulent cryopréserver leurs ovocytes, qui s'intéressent à ces questions et qui se disent, là a priori je suis maintenant fertile, sachant que la marche de la société c'est de faire des enfants plus tard pour les femmes. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la difficulté dans 10 ans. En France, il y a eu pendant de nombreuses années, pendant les 10 dernières années, en fait, la possibilité d'avoir une sorte de réserve de secours si on était donneuse d'ovocytes, et uniquement quand on n'avait pas d'enfant. Et ça, c'était en fait un dispositif qui avait été pensé pour le cas de figure où une donneuse d'ovocytes sans enfant se retrouverait à avoir donné, mais n'aurait pas pu ou se retrouverait par la suite dans des difficultés de procréation, et donc elle aurait donné ses ovocytes et il y aurait peut-être des enfants issus de ses ovocytes quelque part, mais pour elle-même, elle n'aurait pas pu avoir cette chance. Donc on a essayé de faire une sorte de balance pour essayer de compenser ça, sauf qu'en réalité, c'est pas du tout... Sincèrement, c'est pas du tout efficace, parce que quand on fait une cryopréservation pour soi-même, l'objectif c'est d'avoir entre 15 et 20 ovocytes minimum, parce que c'est 5% de chance de réussite par ovocyte. Donc c'est-à-dire qu'on a 5% de chance d'avoir un enfant vivant.
Mais c'est très peu.
C'est très peu.
Est-ce que ça fait pas... Parce que c'est vrai, quand on se dit, ok, cryoconservation des ovocytes, trop cool, je vais les ranger là-bas, et puis je dis n'importe quoi, j'ai 38 ans, ça y est, je tombe amoureuse folle, bon bah parfait, je vais chercher mes ovocytes, on me les fait, hop, tac, tac, et je suis enceinte.
Oui, alors ça va pas se passer comme ça, parce que...
On met les œufs au frigo,
ça c'est vrai, mais c'est le principe de l'assurance, et on prend une assurance, une assurance habitation, on espère très fort qu'on n'en aura jamais besoin. Le but de l'assurance, c'est plutôt de pas en avoir besoin, enfin on espère ne pas en avoir besoin. C'est la même chose avec la cryoconservation, et c'est pas une garantie. Ça, vraiment, les praticiens qui font ces cryoconservations sont très précautionneux, et ceux qui la conseillent, dont je suis, nous essayons d'être les plus... de donner l'information la plus loyale possible. D'accord. Et donc, il est de dire, c'est pas une garantie, et surtout, le protocole sera pas celui-là. Ce que tu décris, là, de se dire, ok, j'ai 38 ans, ça y est, maintenant je trouve quelqu'un, hop, je vais aller chercher mes ovocytes de quand j'avais 30 ans. On va d'abord toujours essayer d'avoir une grossesse spontanée. Si ça marche pas, on passera en protocole de PMA avec les ovocytes du moment présent. Et si là, ça marche pas, alors on ira chercher les
voilà,
ovocytes.
Voilà, donc vous invitez pas quand vous cryoconservez à dire bon bah
non,
du coup
mais en
ça
fait,
vous
ça donnera
plus
jamais
de temps,
plus
en fait.
De temps.
Ça donnera jamais plus
c'est
de temps.
C'est pas ça
très
la
bien.
Démarche. La démarche des femmes qui préservent leurs ovocytes, c'est plutôt d'augmenter leurs chances dans une durée qui est de toute façon la durée que les femmes estiment être la bonne temporalité pour avoir des enfants. Et c'est pas parce qu'on va cryoconserver à 30 ans qu'on se dit « Ok, super, je vais commencer ma famille à 45 ». Non, l'objectif, il est toujours de se dire « Je suis pas dans la situation maintenant de faire des enfants » pour plein de raisons. Et généralement, c'est des questions conjugales. Donc c'est pas par carriérisme. Ça peut, mais c'est rare. Pratique
moi,
de sage-femme.
Dans la mienne aussi. Hein.
C'est vraiment un mythe. Ouais. C'est vraiment des femmes qui ne trouvent pas les conjoints pour... Absolument. Ou qui se posent des questions pour rentrer dans un projet solo, mais c'est pas encore exactement le moment. Et donc voilà, il y a ce besoin de se donner un peu de temps, mais c'est pas se donner du temps en plus, c'est se donner du temps de meilleure qualité. Donc c'est augmenter la qualité du temps qui nous est déjà donné. Quelque part, en cryoconservant, on se dit... cette qualité que je sais déclinante dans le temps, parce que c'est pas qu'une question de quantité les ovocytes, il y a aussi la question de la qualité ovocytaire qui est très importante. Plus on avance en âge, plus les ovocytes sont altérés, plus il y a des risques d'aneuploïdie, triploïdie, donc d'anomalies chromosomiques. Et ces anomalies occasionnent des problèmes d'implantation et puis des embryons qui ne se développent pas.
Hélène, par contre, comment on fait pour conserver, cryoconserver ses œufs? Ça se passe comment?
Oui, donc mettre les œufs au frigo. L'histoire complète, c'est qu'en Italie, sous la pression de l'Église catholique, disons, il y a eu une période, autour des années 2000, où les médecins de la reproduction n'ont plus le droit de conserver des embryons. Alors que c'est la base de la fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on fait toute une couvée, et puis il y en a un ou deux embryons qu'on transfère, et puis tout le reste, on les met au frais. Et on les garde pour la suite, pour plus tard, et pour d'autres tentatives. Donc les médecins se sont dit, ok, comment on fait si maintenant on peut plus cryoconserver des embryons? Donc en fait, ils se sont dit, essayons de voir si on va y arriver avec des ovocytes non fécondés. Pour obtenir toute une récolte d'ovocytes, il faut une stimulation hormonale. Il faut que la femme s'injecte des hormones pendant une durée entre 10 et 15 jours.
Et quand on parle de s'injecter des hormones, c'est une piqûre dans le corps? Non, mais ça, faut, tu jours. Vois, tous les jours à heure fixe, c'est ça hein.
Oui, c'est vraiment
et
contraignant.
Est-ce que ça peut être dangereux?
Oui, il y a toujours un risque d'hyperstimulation, qui est le premier risque. Le risque d'hyperstimulation, donc, c'est le risque d'avoir une surproduction hormonale en réponse, donc une surréaction des ovaires en réponse à la stimulation hormonale. Donc les ovaires qui commencent à devenir très gros, avec des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la torsion d'annexe. La torsion d'annexe, donc, c'est un ovaire qui va twister sur lui-même, qui va tourner sur lui-même. Et donc, ça va vriller toute l'innervation et toute la vascularisation de l'ovaire. Donc, on peut perdre son ovaire à cause d'une torsion d'annexe. C'est évidemment des cas rares.
Oui, c'est
Il faut dire
c'est
que
faible.
L'hyperstimulation, c'est 1% des femmes qui ont recours à la PMA. Mais ce risque, il est plus fort quand on est plus jeune. Parce qu'on a une réponse hormonale, on a une réponse de ses ovaires qui est beaucoup plus forte, puisque justement on a des ovaires qui sont plus sensibles, on va dire, à ces hormones. Donc on a moins de risques quand on est plus âgé. Quand on veut obtenir un grand nombre d'ovocytes à un même cycle, au lieu d'en avoir un, on en veut 10, 15, 20. Il faut s'injecter des hormones pendant une dizaine de jours, donc ça veut dire dans le ventre, ça veut dire dans la cuisse. Tous les jours, soit c'est une infirmière qui vient chez vous, soit on se le fait soi-même, soit c'est la personne avec qui on vit, bref. En tout cas, il faut faire ces injections. Et ensuite, il y a une ponction qui se fait au bloc opératoire. On utilise une sonde endovaginale, donc comme pour une échographie, sauf qu'il y a une aiguille au bout de cette sonde endovaginale qui va perforer les cul-de-sac vaginaux, donc on passe par le vagin, et cette aiguille passe à travers la paroi du vagin et vient ponctionner, récupérer ovocyte par ovocyte dans chaque ovaire, à droite, à gauche. Il y a une anesthésie locale, la plupart du temps, on peut demander une anesthésie générale.
Donc ça fait pas mal?
Si, ça peut faire mal, franchement.
Ça peut faire mal?
Bien sûr, oui.
Même
oui,
sous
oui.
anesthésie
oui.
locale?
Oui. Oui, on va pas mentir aux femmes. Oui, ça fait mal. La plupart du temps, ça fait mal. Et le geste fait mal aussi parce qu'on a des gros ovaires, plus gros que d'habitude, donc plus sensibles. On nous manipule quand même de l'intérieur. Donc, puis l'anesthésie locale, elle vaut pour le fond du vagin. Mais elle va pas jusqu'aux ovaires. Donc en fait, c'est des zones qui n'ont pas l'habitude d'être mobilisées. On peut être amené à vous appuyer sur le ventre parce que ça peut être très mobile. Donc en fait, il faut appuyer sur le ventre. Donc tout ça fait que c'est un geste qui est désagréable à douloureux, voire très douloureux. Et les suites, alors c'est très variable. Il y a des femmes qui peuvent retourner travailler dès l'après-midi sans aucun problème, d'autres qui ont besoin de 24 à 48 heures pour récupérer.
Et aussi, du coup, pendant la période où on est stimulé hormonalement, c'est quoi? C'est un syndrome prémenstruel x8
Alors, c'est souvent de la rétention d'eau, c'est souvent ça peut être aussi de la labilité de l'humeur, donc une humeur un peu instable. Une étude très intéressante menée par une américaine qui s'appelle Renee Almeling. Elle a fait une comparaison sur le vécu de la stimulation hormonale et de la ponction entre des femmes qui étaient engagées dans un processus de procréation médicalement assistée. Donc, c'est des femmes qui sont en échec de procréation et qui doivent vivre une stimulation pour avoir un enfant pour elles-mêmes, versus des donneuses d'ovocytes qui, aux États-Unis, sont en plus rémunérées. Et donc, elle a observé comment ces deux populations vivaient la même stimulation hormonale, avec des écarts d'âge où elle a essayé d'avoir des populations comparables. Et elle s'est rendue compte que les femmes qui faisaient un don d'ovocytes vivaient extrêmement bien la stimulation. Elles disaient « Oh, ça m'a à peine... » Enfin, j'ai pu continuer à faire du sport comme d'habitude. Oui, j'avais le ventre qui tirait un peu les 2-3 derniers jours, effectivement, mais c'était pas... Il y avait une acceptation et un vécu très bon de ces femmes qui étaient là pour donner leurs ovocytes, alors que c'était extrêmement difficile pour les femmes qui faisaient pour elles-mêmes. Et donc, elles le vivaient comme quelque chose de beaucoup plus douloureux, beaucoup plus invasif, beaucoup plus contraignant aussi pour leur vie personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un protocole de stimulation, il y a trois jours, en gros, il y a 10 jours de surveillance, et un jour sur deux ou un jour sur trois, on doit être à 7 heures du matin à l'hôpital pour faire une prise de sang, une échographie. Il y a vraiment un monitorage. Il y a un suivi à la fois biologique et échographique de l'évolution des ovocytes. Et ça prend un temps, une énergie folle, en fait. Et ça rythme, ça cadence notre vie pendant 2 semaines, 3 semaines. Et où, en plus, donc ça veut dire qu'il faut être chez soi à heure fixe pour se faire la piqûre à heure fixe, parce que la piqûre, elle est stockée au frigo. Pour les femmes qui ont des vies très actives, c'est quand même un changement de rythme conséquent. Faire une cryopréservation quand on est en dehors d'une attente d'enfant, en dehors d'un projet parental, c'est finalement beaucoup plus facile que d'être confronté à l'infertilité et de devoir en plus rajouter toutes ces contraintes dans un contexte où on est déjà dans une situation d'échec, si je puis dire.
Si on est confronté à une situation d'infertilité après, quelque part, c'est déjà ça de fait.
Exactement. Je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai cryoconservé mes ovocytes. Moi, j'étais la seule à ne pas être en couple. Voilà, j'attendais mon tour et il y avait partout autour de moi des couples. En les voyant, je me suis dit, mais quelle chance j'ai de pouvoir faire ça maintenant que tout va bien. Et heureusement que je ne suis pas en train de vivre ça dans un petit drame de couple ou un grand drame de couple, parce que c'est vraiment le cas. C'est des épisodes très très difficiles en général pour les couples à traverser. Dans le meilleur des cas, ça se termine bien, mais dans beaucoup de cas aussi, ça se termine pas si bien. Plus à 7h du matin, vous imaginez, il faut s'imaginer un vieux bâtiment de l'assistance publique avec des sièges des années 80, un carrelage qui est à moitié défoncé, et voilà, et donc ces néons blancs, il y a un côté quand même assez sordide dans ces vieux bâtiments pas refaits. Déjà que l'hôpital, c'est pas forcément très gay, mais alors là.
Une dernière question, est-ce qu'on peut augmenter sa fertilité avec du gingembre, une racine chinoise ou un voyage au soleil ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des... Non mais peut-être ça existe parce que je vois il y en a qui proposent ça hein, là aussi. L'acupuncture, j'ai vu des ostéopathes, un trapelvienne, je sais pas quoi. Enfin.
Impossible. Et de la même manière pour la fertilité. En fait, si, je connais pas de recette miracle, mais par contre, je sais qu'il faut être tout petit face à ce grand mystère de la fertilité. Et que quand on est dans cette recherche-là, alors c'est plutôt quand on est dans l'infertilité, quand on est dans une envie d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas, je crois que presque tout est bon à prendre à partir du moment où on a quand même un praticien référent avec qui vous pouvez en discuter, avec qui vous pouvez en discuter librement, ce qui n'est pas toujours facile, parce que quand il n'y a pas toujours des bonnes réactions des praticiens, quand vous expliquez que vous allez voir des, je sais pas, des rebouteux, que vous allez mettre des cierges dans les églises, vous n'êtes pas toujours très bien reçu, même souvent, je pense qu'on n'est pas forcément bien reçu par nos collègues et consoeurs. Étant donné qu'il y a, comme je disais, ce mystère, vraiment, de la procréation, je crois que dans ces circonstances-là, face à l'incertitude, il y a tellement d'attitudes humaines.
Oui, c'est ça.
Il faut accepter que dans les contextes d'incertitude, il y a une pluralité de moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre cette incertitude. Donc, j'ai aucun conseil particulier à donner, à part, si, bien sûr, il y a des choses qui sont médicalement avérées. Si vous êtes fumeuse, oui, il y a une toxicité de la nicotine sur les ovaires. Et on sait que le protoxyde d'azote avait une toxicité, donc, les personnes qui étaient exposées beaucoup à ce gaz, donc, plutôt dans les blocs opératoires, pouvaient avoir une diminution de la qualité ovocytaire. Donc, il y a des facteurs, et de l'obésité aussi.
Oui, les problèmes de santé, en fait.
Voilà, les problèmes de santé. Encore une fois, le corps, c'est une machine générale, globale. Absolument. Et tout communique, tout interagit. Et donc, c'est pas des problèmes isolés. Donc oui, on sait que pour éviter l'infertilité, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais améliorer la fertilité, en fait, on n'en sait rien. Pour le coup, peut-être que les pratiques chamaniques, franchement, marchent mieux pour augmenter la fertilité, que, en tout cas, la médecine n'a pas cette capacité d'améliorer la fertilité féminine. On fait des recherches sur la qualité des ovaires, des ovocytes, pardon. On fait des recherches sur pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe.
Moi, j'ai mon pif de sage-femme qui me dit que, quand même, je trouve que les femmes qui sont soumises à des rythmes infernaux, en fait, le corps se dit d'une certaine façon, attends, tu me mets déjà en surpression, je ne vais pas en plus tomber enceinte. Est-ce que c'est délirant de penser ça ou est-ce que c'est pas délirant? Et si bien que souvent une femme qui a déjà eu un enfant, que j'ai déjà suivi pour sa première grossesse et tout, elle me dit j'arrive pas à être enceinte, je lui dis mais arrête de travailler et souvent elles arrêtent de bosser et ça marche.
Ça s'appelle du sens clinique. Et qui dit sens clinique dit qu'il n'y a pas nécessairement des études randomisées en double aveugle qui vont prouver que. Il y a toute une part de notre métier où on sait très bien, toi et moi, on voit une patiente rentrer dans le cabinet, on sait ce qu'elle a. Donc on n'est pas des médiums, mais on capte quand même de l'information que les gens nous envoient, voilà, qu'on sait mettre en mots. Et que eux-mêmes ne savent pas, par exemple. Chez nous, ça s'appelle le sens clinique. Chez des religieux, ça s'appellerait autrement. Cette capacité à comprendre ce que le corps de l'autre nous dit quand il est en présence, c'est si toi t'as cette intuition que en fait là il faut lever le pied, bah c'est très vraisemblablement tu as raison. Et pour une femme qui serait hyperactive mais qui à niveau d'activité égal le vivrait complètement différemment, ce serait pas ça ton conseil?
Si on se pose des questions, on va voir une sage-femme, un gynéco ou un médecin généraliste gentil, non jugeant et bienveillant.
Pour le coup, s'il y a un message à passer, c'est que on a le droit de savoir en fait. Aucun médecin ne peut vous opposer, aucune sage-femme ne peut vous dire non, en fait vous êtes jeune donc il y a aucun problème. Oui, mais j'ai besoin de savoir. Donc si ce besoin-là est un besoin qu'on entend. Et à mon sens, vu le coût que ça représente pour la sécurité sociale, la procréation médicalement assistée aujourd'hui, il vaut bien mieux prévenir que guérir. Et sans doute que les effets, en plus, vont au-delà de la simple question du bilan biologique. Ce savoir fertile et avoir cette épée de Damoclès un peu plus légère au-dessus de la tête, parce que ça peut peser vraiment très lourd, mais s'alléger en partie de ce poids-là, ce ne sera jamais qu'en partie, parce qu'on sait que le temps de la fertilité, il est limité quand on est une femme. Et puis, au-delà de la question de la fertilité, c'est le temps de la maternité aussi. À quel moment on veut être mère et à quel moment on n'a plus envie d'être mère. Donc on sait que ce temps-là, il est limité. Donc, la question, c'est comment on a envie de le vivre. Et si on veut le vivre sereinement, il y a des moyens. Et donc, et la connaissance, se connaître, avoir accès à de la donnée, en fait. Parce que c'est jamais de la... C'est jamais des certitudes, encore une fois. Mais au moins, d'avoir cette capacité de vivre les choses peut-être de manière plus sereine. Je pense que c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Cette possibilité-là, elle existe. Et donc, faites valoir cette possibilité si c'est votre souhait.
Merci, Hélène.
Merci, Hélène. C'est tout pour cet épisode. Merci, Anna. Et merci à vous tous pour votre écoute. On est toujours preneur de vos retours, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. _anna.roy. Si vous aimez Tout sur Elle, vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Tout sur Elle, c'est un podcast d'Anna Roy avec moi, Nina Pareja, produit par Acna Productions. Et on vous retrouve toutes les semaines pour un épisode sur la santé physique, psychique et sociale de la femme. Merci de votre écoute, à très bientôt. Musique, Anno Domini Beat, Like That.